Connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yeti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie.
Du monstre du Loch Ness au Yeti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine.
Il y a des limites au-delà desquelles l'homme, en dépit de ses efforts, ne saurait survivre. Aucun homme n'a jamais atteint de semblables profondeurs.
Huitième épisode, 20 000 tentacules sous les mers. Avec, dans les rôles principaux, Michel Segonzac, spécialiste de la faune abyssale et de l'architeutis, le calmar géant.
Est-ce qu'on peut en manger du calmar géant?
Tout dépend du nombre de jours, si la date limite est passée ou pas.
Éric Buffetot, paléontologue, chercheur au CNRS, qui s'intéresse aux poulpes colossales.
Il fait au moins 2 mètres de haut, par rapport aux témoins qui sont à côté de lui sur la plage, c'est un truc énorme.
Et le commandant du Nautilus, le capitaine Nemo.
Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les yeux.
12 mètres de la surface, capitaine.
Tenez-vous prêt.
Qui n'a pas lu le célèbre roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, ou vu le film du même nom réalisé par Richard Fleischer avec Kirk Douglas en 1954. À bord du Nautilus, sous-marin révolutionnaire, le capitaine Nemo parcourt les mers et se retrouve confronté avec son équipage à une attaque de calmars géants qui, n'arrivant pas à attraper le vaisseau sous-marin, finissent par faire leurs 4 heures de quelques matelots qui en vain tentent de couper les longs tentacules avec leurs haches. Ces histoires de bateaux attaqués par des céphalopodes démesurés remontent à la nuit des temps. Il y a très longtemps, tous les navigateurs avaient peur d'une créature gigantesque et destructrice dont le seul nom, Kraken, faisait dresser les cheveux sous la casquette.
Le calmar géant, c'est une bonne illustration du rapport complexe entre le mythe et la réalité biologique dans certains cas.
Benoît Grison, biologiste, auteur du livre « Du Yeti au calmar géant ».
Au départ, il y a un monstre mythologique nordique qui est un peu un concurrent du serpent de mer des sagas du Moyen-Âge. C'est le Kraken. Le Kraken, c'est l'autre grand monstre marin mythologique, je dis bien mythologique, des Scandinaves médiévaux. Des Vikings, pour faire court. Le Kraken, c'est une espèce de bête informe, à tendance tentaculaire. La particularité surtout du Kraken, c'est que c'est une énorme créature marine qui se tapit à assez faible profondeur sous les bateaux des pêcheurs et qui peut d'un coup remonter et faire, bien sûr, couler à pic le bateau du malheureux pêcheur. Le Kraken, c'est ça au départ, et il forme un duo d'animaux mythologiques de la mer avec le serpent de mer pour les Vikings. Et quand les Scandinaves, à partir de la période des Lumières, qui a été très importante aussi en Scandinavie, où on met l'accent à partir du 18e siècle sur la rationalité, sur le développement des sciences. Quand les Scandinaves ont commencé à observer des échouages de calmars géants, le kelp dépassait 10 mètres de long, sur leur rivage, parce qu'il y en a souvent en Scandinavie, tout comme en Nouvelle-Zélande, tout comme à Terre-Neuve, eh bien ils ont dit « Ah, le Kraken !» Parce qu'ils appliquaient tout de suite l'étiquette mythologique qu'ils avaient sous la main à ce monstre qui venait visiblement des profondeurs, qui était un peu informe parce que décomposé. Le calmar géant n'est pas informe, qui avait des tentacules. Mais en réalité, le Kraken, au départ, ce n'est pas forcément un calmar géant. Vous voyez, c'est un fantasme des anciens vikings qui désigne la peur de certains grands animaux marins qui peuvent refaire surface brutalement et renverser des bateaux.
Le Kraken est comme la plupart des monstres fabuleux polysémiques.
Michel Meurger, essayiste, folkloriste et ethnologue.
Vous n'avez pas une définition, il n'y a pas une créature qui colle avec le Kraken, mais vous avez des tas de phénomènes qui, additionnés, donnent naissance à cette légende, et c'est une légende vécue. Les premières descriptions du Kraken, on ne peut pas donner une identité zoologique. Et alors finalement, le Kraken, c'est un bel exemple de pseudo-victoire de la science, le mythe devenant science. Le premier à avoir parlé du Kraken, c'était un obscur prêtre italien qui, tenez-vous bien, avait voyagé à pied en Scandinavie, il a été jusqu'au Cap Nord, entre 1663 et 1665, notre prêtre de Ravenne a marché, a discuté avec les gens, alors il utilisait des interprètes, et puis il parlait latin, c'était la langue internationale de l'époque. Il a rassemblé des données extraordinaires sur les mœurs, sur les coutumes, sur les croyances des Scandinaves de son époque. Il préparait un livre qui s'appelle « Le voyage septentrional ». Et alors, dans les chapitres consacrés à la Norvège, il dit que dans la province de Trondheim, dans la Norvège du Nord, commence le domaine d'une créature absolument gigantesque, le krak ou kraken de mer, qui décrit comme un poisson démesuré de figure plate et ronde, pourvu de nombreuses cornes ou bras à ses extrémités. Au moyen de ses cornes dressées de toutes parts, il enserre les petits esquifs des pêcheurs et tente de les submerger. Il nous dit pas que c'est un poulpe ou un calmar. Un poulpe, on le décrit avec ses très longs bras, ses suçoirs. Une créature qui est de figure plate et ronde, on peut encore admettre un céphalopode. Mais qu'est-ce que c'est que ces cornes ?
Le folklore, c'est pas forcément toujours de la pure imagination.
Éric Buffeteau, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ».
La grande question, c'est de savoir jusqu'où aller dans l'interprétation des données folkloriques et dans quelle mesure elles recouvrent vraiment une réalité. Dans quelle mesure aussi, si réalité il y a au départ, à quel point cette réalité a été transformée et modifiée par les processus de répétition du mythe ou de la légende, et ainsi de suite. Donc c'est très difficile à décortiquer, finalement.
Le Kraken de la mythologie est très informe. Parfois, il est même décrit comme un crabe géant.
Benoît Grison, biologiste, auteur du livre « Du Yeti au calmar géant ».
Toujours est-il que le calmar géant, lui, existe bien. Et quand je vous dis qu'il y a des gens qui observaient des échouages au XVIIIe siècle dans l'indifférence totale, que ce soit en Irlande et en Scandinavie, c'est qu'on avait beau être au XVIIIe siècle en plein développement des sciences modernes, et notamment des sciences naturelles modernes, les scientifiques ne croyaient pas encore au calmar géant au XVIIIe siècle. Il a fallu attendre. Vous vous avez deux ordres de personnes. Des gens qui vivent sur les rivages marins, notamment des pays septentrionaux. Et puis aussi des pêcheurs et des baleiniers qui vous disent... On voit des encornés, donc le nom qui était plus utilisé à l'époque pour les calmars. Il disait bien les encornés. Hein. Pour eux, c'était pas des poulpes, hein, c'était pas 8 bras, hein, c'était 10 bras, ce qu'on appelle des céphalopodes décapodes. Bon, on voit des encornés, des calmars qui dépassent la dizaine de mètres. Disaient ces pêcheurs, ces baleiniers ou ces riverains qui avaient assisté à des échouages, ça existe. Ben, les scientifiques de cabinet au XVIIIe siècle disaient non, pas possible. Parce que comme la majorité des céphalopodes, y compris des calmars, ont une taille tout à fait modeste, c'est pas possible. Il y a même eu des arguments fallacieux qui ont été développés sur des bases soi-disant physiologiques ou biomécaniques en disant « Non, non, un tel animal ne pourrait pas atteindre cette taille-là à cause de sa structure anatomique », ce qui est faux. Puis en plus, ce qui a aggravé le cas des observateurs dits naïfs, c'est-à-dire non scientifiques, qui racontaient ça en toute sincérité, hein, on le sait maintenant, et on a même certains de ses rapports, hein. Il disait, pour ce qui est des baleiniers, qui étaient quand même les meilleurs connaisseurs à l'époque, qui avaient la meilleure connaissance des grands cétacés, il disait, ah, et puis alors cet encorné, ce calmar gigantesque, ce céphalopode à 10 bras gigantesque, il se bat avec les cachalots. Des textes de l'époque naturaliste qui disent, là, on arrive au comble de l'invraisemblance. Malheureusement pour eux, la nature est parfois pas respectueuse de ce qu'on croit être vraisemblable. Hein. Parfois, elle dépasse notre imaginaire. On sait maintenant qu'il y a bien des combats entre cachalots et calmar géant, mais le calmar géant ne gagne jamais, parce que le cachalot, qui est extrêmement friand, entre autres, le céphalopode, notamment de petits calmars, de temps en temps, veut se faire un 4 heures un peu plus consistant et s'attaque à un calmar géant en architotis. Et les deux remontent là de profondeur importante, plus de 1000 mètres, en se battant, et à la stupéfaction des observateurs de surface, de certains marins, on les voit se combattre, ou plus exactement, le calmar géant essaie de sauver sa peau. En général, il n'arrive pas à s'en tirer, ou alors il arrive à s'échapper en étant amputé. Ben, quand, à la fin du XVIIIe siècle, comble d'invraisemblance apparente, vous aviez des gens, des marins, particulièrement des baleiniers, que ça soit du port de Boulogne, parce qu'il y en avait en France à l'époque, des baleiniers, ou de Nantucket, sur la côte est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, qui racontaient ça, les scientifiques de l'époque disaient « c'est du délire ». Ben, c'était la vérité. C'est une autre dimension de la cryptozoologie, c'est que parfois, la nature a un peu plus d'inventivité que notre imaginaire. C'est pas une raison pour tomber ou sombrer dans la crédulité. Mais ce qu'aurait dû faire, c'est facile à dire après coup, hein, je comprends. Hein. Peut-être que j'aurais été des sceptiques à l'époque. Mais ce qu'auraient dû faire ces anciens scientifiques du XVIIIe siècle, c'est au moins aller enquêter. Ou demander aux gens parfois, et c'était le cas dans certains milieux de la pêche, et notamment de la pêche à baleine, est-ce que vous avez un fragment anatomique ? Certains, par exemple, avaient des bouts de tentacules, vous voyez. Non, il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour qu'on commence à discuter cette possibilité. C'était pas facile, en plus, c'était une grosse controverse.
On a mis longtemps à ne pas y croire, parce qu'on pensait que c'était des racontars de marins ou d'ivrognes. Et puis, en 1800 aidés, eh bien, des carcasses de calmars géants sont échouées à Terre-Neuve. Et là, force est de constater que oui, il existe des bestioles qui, si on les croise dans l'eau, ne doivent pas faire plaisir à rencontrer. Pour le coup, le calmar géant, c'est vraiment un monstre marin. On peut lui donner cette appellation-là.
C'est typiquement le cas le plus emblématique.
Michel Reynal, cryptozoologue confirmé.
Un véritable animal marin de plusieurs mètres de long, probablement 10 mètres et plus, dont l'existence a été mise en doute pendant des siècles et dont on a fini par admettre à force l'existence. On a commencé par avoir des témoignages, quelquefois des dessins, des représentations. Il y en a une notamment en 1673, suite à un échouage sur la côte irlandaise, qui a fait l'objet de toute une série de tracts, plus ou moins, de l'époque, de dessins, etc. Et il faudra quand même attendre le milieu du XIXe siècle avant d'avoir les premières pièces anatomiques suite à des échouages ou d'autres capturés dans des filets ou de calmars géants, pour enfin être convaincu de l'existence de cette créature. C'est, je dirais, un des premiers succès d'une démarche, d'un état d'esprit authentiquement cryptozoologique, avec notamment un spécialiste des céphalopodes, un Danois, Sten Stroop, qui a eu l'idée d'étudier les vieux manuscrits scandinaves, et puis ensuite de les corroborer avec des becs de calmars ou des bras de calmars géants, découverts justement dans les années 1850. Et il a pu effectivement démontrer que les écrits des Scandinaves sur le Kraken, s'ils étaient pour certains bien sûr largement exagérés, quand il s'agissait d'échouages de créatures marines qu'on attribuait au Kraken, il s'agissait le plus souvent effectivement de restes de calmars géants.
On y a vu longtemps des légendes et il a fallu qu'il y ait au départ des échouages, notamment à Terre-Neuve, hein, dans les années 1870, pour qu'on se retrouve avec des spécimens réels de cet animal et que les zoologues soient bien obligés d'admettre que ce n'était pas simplement des récits de marins, que ça correspondait à une véritable réalité zoologique.
Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ».
Si on prend ces histoires de calmars géants, les témoignages de marins remonte à quand? Bien avant 1870.
Oui, il y en a. Il y a déjà des histoires de céphalopodes gigantesques. Les gens ne disent pas forcément toujours que c'est un calmar. Quelquefois, c'est plutôt décrit comme un poulpe, mais dès le XVIIIe siècle, voire avant. Hein, au départ, ça a été volontiers considéré comme des récits à dormir debout de marins qui sont bien connus pour raconter n'importe quoi, n'est-ce pas? Il a fallu là qu'il y ait des preuves vraiment tangibles pour que les zoologues acceptent l'existence de cet animal.
Et pourquoi les zoologues dans les années 1800 ne veulent pas croire à l'existence d'un tel animal? Parce que c'est trop grand, que ça ne correspond pas aux autres calamars qu'on connaît?
Je pense qu'ils étaient sceptiques parce que ça leur paraissait évidemment très grand par rapport à ce que l'on connaissait, et puis parce que ça avait un petit côté légendaire, hein, récit de marin auquel on ne peut pas faire confiance. Et donc il a fallu qu'ils aient quelque chose de vraiment concret, de vrais spécimens pour que ils changent leur opinion. Et ça, dans un sens, c'est compréhensible de la part d'un scientifique qui veut avoir du solide, hein, qui ne peut pas se contenter d'une description par monsieur Intel qui dit avoir vu un immense calmar. Il lui faut véritablement un spécimen, et c'est vrai dans tous les cas de figure.
Alors là, par contre, on en a eu. Enfin, je veux dire, des calamars géants qui se sont échoués, il y en a beaucoup.
Tout à fait. Et puis maintenant, on les a filmés dans leur habitat, etc., etc. Donc maintenant, c'est un animal dont l'existence ne fait plus le moindre doute et qu'on commence à connaître de mieux en mieux.
Mais c'est un véritable monstre, quand même, celui-là. Enfin, c'est plus de la cryptozoologie, c'est de la zoologie, mais c'est...
C'est de la zoologie, mais ça fait partie de ces animaux, oui, qu'on considère éventuellement comme monstrueux, ce qui ne veut pas dire grand-chose s'agissant d'un animal réel. C'est parce que c'est un animal qu'on a découvert relativement récemment, qui est très étonnant par son aspect. Donc on a tendance à y voir quelque chose de monstrueux, mais ça c'est subjectif, je dirais.
Comment sais-tu qu'il faut chercher là? La plupart des poissons qui vivent dans les grandes profondeurs ont un territoire bien défini. Il y a les espèces qui émigrent et les autres restent généralement sur place. Ce point précis est habité par de nombreuses espèces. Peut-être que certaines d'entre elles se développent de façon gigantesque et elles seraient responsables des disparitions inexpliquées. Si seulement nous avions la chance de capturer un spécimen géant, nous pourrions donner la preuve que ces animaux gigantesques existent bel et bien.
Exactement comme dans Le Monstre des Bermudes, film réalisé en 1978 par Tsugunobu Kotani, nous avons cherché pour cet épisode consacré au calmar géant un expert, un scientifique courageux, qui plonge dans les plus grandes profondeurs du globe afin d'étudier les créatures étranges qui peuplent les fonds des océans. Et ce scientifique, c'est Michel Segonzac. Expert en écologie de la faune abyssale, il a consacré un très beau livre aux calmars de taille démesurée intitulé « Géant des profondeurs ».
Même aujourd'hui, j'ai entendu dire par des personnes que je côtoie, mais cette histoire de calmar géant, c'est vrai que ça existe. Voilà, aujourd'hui encore, il y a des doutes. Il y a des doutes malgré les preuves, malgré, par exemple, au muséum de Paris, à la Grande Galerie de l'Évolution, il y a un exemplaire qui a été donné ou vendu par des Néo-Zélandais. Et qui fait 6 mètres de long, qui a été naturalisé, et c'est un véritable calmar géant. Voilà, c'était un monstre pendant des siècles, et ça reste encore dans l'imaginaire des gens d'aujourd'hui. Pas tous, certainement, mais il y a quand même une recherche d'un certain mystère, peut-être. On préfère évoquer des animaux mystérieux plutôt que réels. Voilà, c'est peut-être le caprice de la pensée humaine.
Impossible dans une série consacrée à la cryptozoologie de parler de Michel Segonzac sans évoquer sa découverte zoologique. En effet, lors d'une de ses nombreuses plongées dans les fonds abyssaux, il est revenu avec une bestiole jusqu'alors inconnue de la science, la Galatée Yeti, une découverte qui a fait beaucoup de bruit dans le monde océanographique. Alors vous avez découvert des espèces nouvelles, dont la Galatée Yeti. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi cette sympathique petite bête ?
Oui, alors ça, c'est une grande chance, en effet, que j'ai pu avoir avant de partir à la retraite. J'ai été invité par des collègues américains à explorer une zone hydrothermale, c'est-à-dire ces communautés qui vivent, qui ont été découvertes à la fin des années 70, sur les dorsales, les montagnes sous-marines, à la faveur de sorties d'eau chaude, tiède. Et c'était un site qui n'avait jamais été exploré, au 1500 km au sud de l'île de Pâques. Et là, à la première plongée, j'ai pu voir quelque chose, un animal blanc, mais avec une sorte d'auréole autour, enfin quelque chose que j'avais jamais vu. Alors j'avais signalé cette observation au pilote, mais bon, avec mon anglais rural, je ne suis pas sûr d'avoir été compris. Quand il me répond, je ne comprends rien. Et la mission, la plongée s'effectue avec à bord une spécialiste, la chef de mission d'ailleurs américaine, qui elle avait pour objectif de travailler, de chercher, de faire une recherche sur les moules. Donc on a pu reparler de cet animal. Et à la fin de chaque plongée, le sous-marin se stabilise au fond en attendant l'ordre du navire de larguer, de remonter. Donc moi je n'ai rien vu à ce moment-là. Et quand on a fait une réunion à bord, comme on fait chaque fois après une plongée pour expliquer ce qu'on a vu à nos collègues pour préparer la plongée suivante, il est arrivé avec un plateau contenant l'animal. Et alors là c'était vraiment un choc. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. Cet animal n'avait jamais été vu. C'était un crustacé de 15 cm de long à peu près, avec des longs appendices couverts de soie blanche. Tout l'animal était blanc, et c'était non seulement une espèce nouvelle, mais un genre nouveau, une famille nouvelle, qui est une sorte de chaînon dans la hiérarchie, dans la classification des décapodes, c'est-à-dire où on peut trouver les araignées de mer, les pagures, Bernard l'ermite, etc. C'était une très belle découverte, qu'on a appelée Galatea Yeti, parce que je voulais la faire une comparaison avec le Yeti pour le côté spectaculaire, puis sa démarche aussi un peu lourde. On a dû donner un nom latin, c'était Kiwa. Pourquoi Kiwa ? Parce que dans la mythologie polynésienne de l'île de Pâques, c'était la déesse des crustacés. Et c'était une belle occasion de rendre hommage à cette île mystérieuse, extraordinaire. Et voilà, et Kiwa, Hirsuta, ça se passe d'explication puisqu'elle a beaucoup de soi. Chaque fois qu'on plonge dans ces profondeurs qui sont si peu connues, on est sûr d'avoir de nombreuses espèces nouvelles, mais surtout dans les petites tailles, ce qui n'était pas le cas dans là. Mais vous savez, cet animal avait une sorte d'aura, c'est le cas de le dire, avec sa blancheur, ses soies. Ça rappelait un petit peu peut-être, c'est ce qu'on explique, le succès qu'elle a eu, ça rappelait un petit peu les nounours de l'enfance au milieu des informations catastrophiques qu'il y avait autrefois, aujourd'hui d'ailleurs aussi. Des animaux bizarres ou géants ou fantastiques comme on pense qu'il peut y en avoir dans des profondeurs aussi vastes, obscures, mystérieuses, inquiétantes. Jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Un poulpe que j'avais vu dans les fonds, qu'on a réussi à récolter d'ailleurs une fois, qui faisait 1,30 m de long, c'est tout. Dans les grandes profondeurs, on n'a pas vu quoi que ce soit de monstre. Ceci dit, quand on sait que la superficie de ces grands fonds représente les 2/3 de la planète, on n'est pas à l'abri de certaines découvertes. Monstre, je ne crois pas, mais on peut toujours, sinon espérer, du moins fantasmer.
Aujourd'hui, Michel Segonzac, fort de toutes ses recherches, est devenu une référence en ce qui concerne le calmar géant, dont le nom scientifique est l'Architeutis dux. Est-ce que vous pourriez me le décrire ?
Alors, la description est quand même très facile, dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez fait les travaux pratiques en biologie animale, mais si on prend une sèche et qu'on la dissèque, on va retrouver chez le calmar géant à peu près tous les organes, les mêmes organes, à la différence de la taille. La taille, on va trouver des organes de taille considérable. Un œil de calmar géant peut faire jusqu'à 27 cm de diamètre, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la taille d'un ballon de basket. C'est l'œil animal le plus volumineux. Le bec aussi, vous savez que tous ces animaux ont un bec. Le bec qui sert à déchiqueter la proie. Et ce bec fait 11 cm de diamètre, ce qui est assez considérable aussi par rapport au petit bec des sépias, par exemple. Après, les descriptions, on peut en faire. On a disséqué le cerveau. On s'est rendu compte que ce cerveau, qui avait trois parties, était très complexe. Très complexe, mais ce qui peut s'expliquer, parce que c'est un. Là aussi, on va retrouver des comportements ou des caractéristiques d'animaux qu'on observe en laboratoire, des poulpes par exemple, dont on connaît les capacités cognitives, qui ont une intelligence, on peut le dire, capable de mémoriser. Mais alors, on peut observer en laboratoire ces capacités. On peut penser que le calmar géant, dans son milieu, peut avoir les mêmes, mais ça, on n'en sait rien. Voilà, on ne peut pas expérimenter en laboratoire comme on peut le faire pour un poulpe. Ce qui a été fait, un collègue néo-zélandais a pu trouver dans les filets de chalutiers des larves de calmar géant. Il a pu en élever, en conserver quelques jours en aquarium. Ça, c'est une possibilité d'étudier la physiologie, la respiration, l'alimentation pendant un certain temps. Mais manque de chance, ces larves sont mortes au bout de 4 jours, donc ça s'est arrêté là. Mais c'est une voie qu'il est intéressant de poursuivre pour connaître un peu mieux cet animal.
certains spécimens géants retrouvés échoués sur les plages peuvent atteindre des longueurs étonnantes, jusqu'à 15 mètres. Et il pourrait cependant en exister de bien plus grands, même si ça n'a pas encore été prouvé.
Certains cryptozoologues vont beaucoup plus loin et disent qu'il existe des spécimens de beaucoup plus grande taille de calamars géants en se basant sur la taille de cicatrices faites avec les ventouses, parce qu'ils se battent avec des cachalots dans les fonds des mers. Est-ce que, mais donc on parle de trucs qui font plusieurs dizaines de mètres, donc on n'en a quand même jamais retrouvé de cette taille-là.
Non, effectivement.
Éric Buffeteau, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ».
Moi, ça ne me paraît pas totalement invraisemblable. Et puis, effectivement, ces empreintes de ventouses sur la peau des cachalots sont impressionnantes. Mais dès le moment où on sait qu'il existe des calmars de très grande taille, qu'il en existe, qu'ils soient un peu ou nettement plus grands, ça devient déjà moins difficile à admettre, à mon avis. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de concret, qu'il y a un animal de ce style qui existe, qui peut être très grand. Alors pourquoi il n'y en aurait pas d'autres encore plus grands? Ma foi, pourquoi pas. Mais le fait qu'on ait quelque chose de concret conduit à garder l'esprit ouvert devant ce genre de choses.
Je comprends qu'on puisse faire un calcul entre la taille d'une empreinte de ventouse de calmar géant sur un cachalot qui aurait été capturé.
Michel Segonzac.
Mais cette affaire n'est pas très claire. D'abord parce que si c'est par exemple un cachalot jeune et qui au cours de sa croissance va étendre un petit peu le diamètre de cette empreinte, il peut y avoir une confusion. On ne sait pas trop, mais il est difficile d'imaginer une longueur comme on l'a estimée. Vous savez, on a parlé de 40 mètres, certains ont parlé de 100 mètres. Restons dans l'imaginaire, mais ça ne me paraît pas très probable.
En fait, le calmar géant est le plus grand invertébré de la planète. Mais il est aussi le moins connu. Les scientifiques l'étudient le plus souvent à l'état de cadavre quand il s'échoue quelque part.
C'est un animal qui pouvait faire 18 mètres de long, évidemment avec les deux longs bras étirés. Aujourd'hui, à travers les quelques échouages qui ont lieu, et également avec les prises faites par les chalutiers hauturiers, ces chalutiers qui vont maintenant rechercher des ressources vivantes de plus en plus profond, et qui peuvent remonter dans leur filet des calmars géants. La taille varie entre 10, 12, 14 mètres maximum. C'est plutôt autour de 12 mètres, ce qui est quand même considérable, mais qui est peu courant.
À chaque fois qu'une carcasse d'architeutis est récupérée par des pêcheurs, les chercheurs se jettent dessus pour l'analyser. Et les médias en parlent automatiquement, comme dans cette archive du journal télévisé de la RTBF.
Le mythe est donc bien réel. Le calmar géant existe. On a rencontré trois de ses congénères au large des côtes de Tasmanie. Ce sont des pêcheurs de grands fonds qui les ont capturés, accrochés dans leur filet.
C'est un animal vraiment énorme. On a dû utiliser un gros camion pour le transporter. Son corps dépassait de chaque côté. C'est vraiment, vraiment une grosse bête.
Une découverte unique, ces mystérieuses créatures évoluant dans l'obscurité la plus complète, à plus d'un kilomètre sous la surface de la mer. Les scientifiques ont du même coup pu percer un secret troublant, l'accouplement des calmars, révélé par des traces de sperme au creux de tentacules.
Le mâle a un pénis très musclé qui mesure presque un mètre de long et à une aussi grande profondeur, c'est comme s'il utilisait la pression hydraulique pour injecter son sperme.
Des extases toutefois rares, le calmar étant plutôt du genre solitaire. Ses tentaculaires ventouses terrifient l'homme depuis la nuit des temps, mais son seul ennemi reste le cachalot. D'autant plus exceptionnel de découvrir aujourd'hui un calmar complet, jusqu'à présent, seuls des morceaux étaient retrouvés dans les ventres des cétacés.
Il se nourrit de quoi? Parce que vu sa taille, il ne doit pas manger que des algues.
En effet.
Michel Segonzac, spécialiste de la faune abyssale et auteur de « Géants des profondeurs ».
C'est un carnivore, un prédateur. Et il vit entre 1600 et 600 mètres de profondeur. Il se nourrit d'animaux qu'il trouvera sur le fond. C'est pour ça qu'on le trouvera surtout dans les canyons. Ces canyons qui font suite aux rivières des continents et qui peuvent aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et là, il va y trouver des crustacés. Ça peut être des crabes, des moules également. Il peut se nourrir aussi de ses propres congénères, des poissons. Donc, il a une alimentation très variée qui lui confère un taux de croissance assez important qu'on a du mal à étudier. Et en même temps, il n'a pas une longévité très importante. Là, c'est les chercheurs, suivant leur méthode de calcul, pensent qu'il peut vivre 4 ans jusqu'à 14 ans en faisant des études d'isotopes. Mais comme on n'a pas de référence, mettons, en laboratoire, on a du mal à estimer cet âge. On pense qu'il ne vit pas très vieux.
Alors on parle de combat de titans avec le cachalot, c'est vrai? Ces deux grands adversaires?
Oui, ces deux grands adversaires, c'est sûr, parce que là, le cachalot, lui aussi, vu sa taille, est obligé d'avoir une nourriture considérable. Et le calmar géant est sa proie préférée. Encore qu'il y a certaines zones dans l'Atlantique, je crois, je ne suis pas sûr, où on n'a jamais retrouvé dans les estomacs de cachalots des becs de calmar géant, puisque c'est comme ça qu'on peut savoir quel est le menu des cachalots. Un écrivain, un officier de marine, Louis Lacroix, avait recueilli des témoignages dans son ouvrage « C'était les derniers baleiniers français ». Un témoignage dans lequel il était dit que des pêcheurs avaient trouvé un calmar géant qui enlaçait un cachalot et trouvé mort tous les deux. Alors on pouvait penser que le calmar, avec, vous savez qu'au bout de ses deux longs bras, il y a une spatule, comme une main, et qu'il aurait pu, avec cette spatule, boucher les vents, la narine, du cachalot, et entraîner comme ça sa mort par asphyxie. Ce qui n'est pas impossible. Ceci dit, le vainqueur de ce combat reste quand même le cachalot, bien entendu.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Vitesse d'alerte, en avant tous. L'hélice est engagée. Décharge maximale.
Bien, capitaine.
Vu qu'il n'a pas peur de s'attaquer à des cachalots, est-ce que le calmar géant représente un danger pour l'homme ? Dans 20 milieux sous les mers, il ne craint pas en tout cas de s'attaquer carrément à un énorme sous-marin, le Nautilus.
Préparez une autre décharge.
Impossible, capitaine, les éléments sont grillés.
Alors il faut se battre en surface, tout le monde dans la chambre de veille.
Bien, capitaine.
Purgez les ballasts. Parez à faire surface.
Il y a beaucoup de légendes, d'histoires autour de cet animal qui est quand même assez extraordinaire. Il est quand même vraiment impressionnant. Des pêcheurs parlaient d'attaques sur leur barque, sur leur petit bateau, etc. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est exagéré ou ce sont des racontars?
Il y a la part du vrai, la part de fantasme également, là. Parce qu'il y a eu quelques témoignages de pêcheurs au Canada. Un pêcheur avec son fils avait non pas été attaqué, parce que l'attaque d'un calmar géant en surface, s'il est en surface et qu'il est vraiment trop malade pour penser à attaquer qui que ce soit, y compris des hommes d'ailleurs, parce que ce n'est pas sa proie naturelle. Mais si on remonte au Moyen-Âge, à l'époque du Kraken, il y avait l'évêque d'Uppsala qui, pour impressionner ses fidèles et les ramener sous son aile, vous savez qu'à cette époque, il était capable d'inventer n'importe quelle terreur pour pouvoir ramener les fidèles chez lui. C'est pas comme maintenant. Et là, il avait imaginé un calmar géant. Alors là, c'était pas capable de s'attaquer à des navires, des voiliers, des grands voiliers, et d'entraîner le voilier corps et bien par le fond. Ça a été repris par un peintre qui a voulu faire un ex-voto et qui a disparu d'ailleurs pendant la guerre, et qui représentait justement cette image qu'on voit partout, qui est largement diffusée, d'un poulpe géant qui entraîne un grand navire, un grand voilier par le fond. Alors ça, bien entendu, c'est une légende, mais qui a, n'empêche, terrorisé les pêcheurs et les peuples côtiers. Quand on parle de l'imaginaire collectif, avec mon collègue Angèle Guerra, avec qui nous avons fait un livre Géant des profondeurs, on raconte qu'une fois, Angèle Guerra donc voulait monter une mission avec APA, caméra, pour filmer pour la première fois un calmar géant dans son milieu au large de la Galice où il y a des zones propices.
Pour aller traquer le calmar avec son collègue, Michel Segonzac part à bord d'un bateau, l'Atalante, qui possède à son bord un petit sous-marin, le Nautile, spécialement équipé pour les plonger dans les grandes profondeurs.
J'ai posé la question au responsable du Nautile, qui voulait s'informer sur le lieu, sur l'endroit, les conditions, et également sur le comportement de l'animal. Eh bien, il m'a demandé si cet animal pouvait être agressif. Donc on avait en tête encore l'image du calmar géant qui attaque le Nautilus de Jules Verne.
Certain qu'aujourd'hui encore, l'Architeutis Dux, le calmar géant, nourrit de nombreux fantasmes, même chez les professionnels du monde sous-marin. C'est sans doute parce qu'il est très peu connu. En effet, les observations d'un calmar géant vivant dans son milieu naturel se comptent sur les doigts d'une main. Et ce, malgré les nombreuses expéditions scientifiques de tous les pays qui essayent de l'approcher depuis maintenant de nombreuses années.
Les Américains, en 98, je crois, au large de la Nouvelle-Zélande, où il y a beaucoup de passages, on fait une mission de un mois et ils n'ont rien observé.
Michel Segonzac.
Une autre équipe, l'équipe de Kubodera, un japonais, a cherché, ça fait 15 ans qu'il recherche lui aussi un calmar géant dans son milieu. Et en 2004, il avait réussi à faire quelques photos d'un calmar géant à 600 mètres de profondeur, je crois. Mais c'était des photos qui étaient quand même assez floues, de mauvaise qualité. Il a persévéré et grâce à un sous-marin qu'il a équipé avec des appâts lumineux, des appâts gustatifs. Au large du Japon, à 600 mètres de profondeur, il a réussi à voir les premières images d'un calmar géant dans son milieu. Alors c'est un animal qui fait 6 à 8 mètres de longueur. Il lui manque les deux bras, mais bon, ça, les deux bras, ça a pu être coupé par des prédateurs. Et voilà, ce sont les premières images qui ne révèlent pas grand-chose à part la couleur de sa peau, parce que la couleur naturelle entre les échouages, les mauvais traitements des animaux dans les filets des pêcheurs, on n'avait pas une peau naturelle, quoi. Disons que c'est une performance plus technologique que scientifique. Je crois qu'il continue encore ses recherches, mais voilà, pour comprendre cet animal, il faudrait continuer une expérience qu'ils avaient commencée mais qu'ils n'ont pas renouvelé, c'était de fixer une caméra sur le front d'un cachalot. Ça avait été réalisé et cette caméra a pu filmer quelques minutes jusqu'à 100 ou 200 mètres de profondeur, je crois. Et puis elle s'est détachée. Et cette expérience n'a pas été renouvelée et c'est bien dommage parce que là, on aurait pu avoir une idée du comportement de cet animal. Alors que connaît-on de cet animal aujourd'hui? À partir des échouages ou des prélèvements à bord des bateaux, encore faut-il que les pêcheurs soient sensibilisés à l'intérêt scientifique de cet animal. On ne connaît pas grand-chose en réalité sur sa croissance, sur son comportement sexuel qui est assez bizarre. Le mâle, il est doté d'un organe d'un pénis qui fait une taille considérable, qui fait les trois quarts de la longueur du manteau, c'est-à-dire du corps. Et ce pénis est utilisé comme, je dirais, presque comme un bazooka, c'est-à-dire qu'il envoie non pas des spermatozoïdes, mais des capsules qui contiennent ces spermatozoïdes, des capsules qui peuvent faire 10 cm de long. Et pourquoi ? Parce que nous, on a retrouvé ces capsules dans des corps de la femelle, mais à des endroits très bizarres, y compris dans les bras. Mais le pire, alors comment savoir comment les ovocytes sont fécondés à partir de ces capsules ? On pense qu'il peut y avoir des enzymes qui agissent. Mais le plus étonnant, c'est qu'on a trouvé des capsules dans le corps de mâle. Et là, on ne comprend pas très bien. Alors, est-ce qu'un mâle qui copule avec une femelle ne voit pas derrière lui un autre mâle qui arrive et qui, vous savez, dans le noir, peut-être qu'il se trompe. Bref, enfin, pour l'anecdote, on ne comprend pas pourquoi ces mâles peuvent avoir des capsules de notre mâle dans le corps. Voilà. Ça reste encore très difficile à observer.
Calmar géant existe, c'est entendu, et c'est aujourd'hui bien démontré, même si cet animal monstrueux reste mystérieux sur bien des aspects aux yeux des scientifiques. Mais se pourrait-il qu'une pieuvre géante existe, un poulpe colossal ? Rien n'est prouvé, mais cependant en Floride, sur la côte des États-Unis, près de Sainte-Augustine, une bien étrange carcasse est échouée en 1896.
Oui, alors ça c'est un gros mystère.
Éric Buffeteau, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ».
C'est une plage en Floride où on a trouvé une masse de chair en décomposition et où qui a été interprétée comme étant les restes d'un poulpe de taille gigantesque.
Une masse énorme et on ne savait pas à quoi on devait l'attribuer.
Michel Segonzac.
C'était un mystère, ça aurait pu être un monstre des grandes profondeurs, mais l'animal était trop détérioré pour qu'on puisse se prononcer.
Et ça a donné lieu à des controverses sans fin entre des spécialistes, les uns disant oui ou oui pourquoi pas, et d'autres étant beaucoup plus sceptiques sur ce que ça pouvait être.
Éric Buffeteau.
Et c'est des cas où on spécule à partir d'un spécimen qui est en très mauvais état et qui se prête pas facilement à l'identification. Et donc ça laisse la porte ouverte à des discussions qui peuvent durer très très longtemps. On reste dans l'incertitude.
À ce propos, poulpe, pieuvre, c'est la même chose. Hein.
Michel Segonzac.
On dit pieuvre depuis le roman de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, où il emploie le mot pieuvre parce que c'est poulpe dans le langage, dans le dialecte normand de l'époque. Donc poulpe, pieuvre, c'est la même chose. Le poulpe ou pieuvre existe bien dans le Pacifique Nord. Les tentacules peuvent faire jusqu'à plus de 3 mètres de long, ce qui fait que, étendu, on peut avoir 7 ou 8 mètres de long. Il existe bien, et non seulement il existe, mais il est utilisé aussi par les pêcheurs qui en font le commerce. Donc il existe bien. Je ne connais pas la quantité qu'ils peuvent pêcher, mais cet animal existe. Il n'est pas considéré comme mystérieux, puisqu'il vit dans les 100 premiers mètres de la surface de l'océan.
Néanmoins, de récentes études ADN sur des morceaux de tissu de cette carcasse qui ont été conservés jusqu'à nos jours prouveraient qu'il ne s'agissait pas d'une pieuvre géante mais d'un cachalot dans un tel état de décomposition qu'il était bien difficile à l'époque de l'identifier. Au moment de clôturer cet épisode entièrement consacré au terrible calmar géant, il fallait bien poser la question la plus importante le concernant.
Est-ce qu'on peut en manger du calmar géant ? Est-ce que quand il y en a un qui s'échoue, est-ce que les populations les mangent ?
Écoutez, ça, tout dépend du nombre de jours, si la date limite est passée ou pas. Hein. C'est pas facile à savoir. Mais il est vrai que dans la littérature, on peut voir une publication faite par Clyde Roper, qui est un spécialiste des calmars géants américains, et qui, à l'occasion d'une thèse, avait proposé de goûter, de faire goûter aux invités du calmar géant parce qu'il en avait congelé. Il a décongelé un bout de calmar géant, découpé un petit morceau, et c'était lui le premier forcément qui devait le goûter. Et dès qu'il l'a goûté, eh ben, il l'a recraché parce que c'était immangeable. Et depuis, il avait publié que c'était carrément immangeable. En réalité, il avait congelé une partie de calmar géant qui était déjà bien avancée et qui était, qui était un peu pourrie, quoi. Alors lui, il avait expliqué que le calmar géant avait l'habitude de concentrer dans ses tissus des ions ammonium qui lui permettaient de flotter, ça lui permettait d'économiser de l'énergie. Comme d'ailleurs, on peut le voir avec la raie, a effectivement un goût un petit peu d'ammoniac et qu'on atténue quand on fait une raie, c'est la raie au capre, au vinaigre, ce qui permet d'atténuer ce goût. Mais là, il ne s'agissait pas d'atténuer, c'était que vraiment le calmar était pas en bon état. Donc, connaissant les affinités culinaires des Anglo-Saxons, j'ai voulu connaître, savoir par moi-même si c'était vrai ou pas. Et j'ai demandé à mon collègue Angèle Guérin s'il pouvait m'envoyer un bout de calmar géant qu'il avait au congélateur. C'est ce qu'il a fait. Et j'ai goûté, j'ai fait trois préparations de ce bout de bras de calmar géant. Et il s'est avéré que c'était tout à fait comestible. C'était tout à fait comestible, donc voilà. Alors, de là à dire qu'aujourd'hui, tout le monde va se précipiter sur cette nouvelle nourriture, on n'en est pas là parce qu'on voit mal la représentation d'un calmar géant sur les tasses de poissonniers. Mais on peut penser qu'autrefois, dans les périodes de disette, un calmar géant fraîchement échoué devait sinon servir de nourriture aux populations, du moins... Les pêcheurs ont dû sans doute l'utiliser comme appât pour leur pêche, c'est sûr.
Dans le prochain épisode, nous partons à la recherche de nos peut-être cousins éloignés. Les hommes sauvages. Grâce à cette série, vous connaissez maintenant le Bigfoot et le Yeti. Mais sachez que des hommes singes, on en trouve partout sur la planète.
Il y a le Majin Gwari au Brésil, le Yaoi en Australie, le Sajarong Gigi en Indonésie et aussi le Mande Barung en Inde.
Les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.